André d'Hôtel, Le pays où l'on n'arrive jamais, 9e cassette, première face, page 225. Hélène, Gaspard et Théodule sortirent de l'enceinte et tirèrent la porte à eux. Ils se laissèrent glisser le long du talus. Puis ils suivirent le fond du ravin. C'était une coulée vers laquelle les eaux de la forêt étaient drainées en hiver et au printemps. La coulée remontait en pente douce vers les bois qui, peu à peu, la comblaient. Quand ils arrivèrent dans le bois, Hélène dit « Maintenant, nous sommes tranquilles. Racontez votre petite histoire. » « Monsieur Rosidor ne peut pas se passer de toi, » dit Gaspard avec une certaine dureté. « Je fais ce que je veux, » dit-elle. « Racontez. » Ce fut Théodule qui s'en chargea. « Tu te rappelles, dit-il, qu'un jour, il n'y a pas si longtemps, tu es venu me demander l'hospitalité. Tu t'étais sauvé d'Anvers et tu cherchais ton pays. Voilà tout ce que je savais sur toi. Je ne t'ai pas oublié. Je demandais toujours des nouvelles de l'enfant d'Anvers. Depuis ce temps, j'ai rencontré Gaspard Fontarel qui désirait te rejoindre et que j'ai aidé. Il a trouvé place dans une péniche qui appartient à Emmanuel Rosidor. Mon père veut être le maître d'une quantité d'entreprises. Il a aussi des péniches. Je te reconnais maintenant, dit Hélène, mais tu étais sourd quand je suis arrivé chez toi. J'étais sourd, répondit Théodule. Depuis hier, j'entends les oiseaux. Il faut commencer par le commencement, observa Gaspard. Ils expliquèrent comment Emmanuel Rosidor et M. Drapeur s'étaient entendus pour laisser croire à Hélène qu'elle avait habité autrefois le château avec maman Jenny et qu'elle la retrouverait, comme elle avait déjà retrouvé le paysage de son enfance avec les palmiers, les bouleaux et le grand lac dans la forêt. Tandis qu'ils racontaient, le visage d'Hélène reprenait cette beauté cruelle qu'ils avaient autrefois connue. Ils ne m'ont pas laissé un instant de répit, disait-elle. J'étais incapable de réfléchir. Ils me faisaient conduire une auto, m'apprenaient à plonger dans le lac et à nager longtemps. Ils voulaient faire de moi une acrobate accomplie. Du moins, Emmanuel Rosidor le voulait. J'assistais à des mises en scène dans le studio et on m'apprenait des bouts de rôle. J'étais contente avec cela. Le soir, il fallait encore que je m'exerce au chant. On me promettait une carrière plus éblouissante que celle dont M. Drapeur rêvait pour moi. « Peut-être n'aurions-nous pas dû, » dit Gaspard, « mais on désirait tellement te revoir et te parler. Il faut que tu retournes chez M. Rosidor. Où pourrions-nous découvrir ton pays vraiment? Maintenant que tu sais, tu trouveras des moyens de t'informer dans ton nouveau métier, beaucoup mieux qu'avec nous. » Tu feras semblant d'abandonner tes rêves. On te laissera libre et tu chercheras. Je ne sais pas, dit Hélène. Où allez-vous maintenant? Je dois descendre vers la vallée pour prendre le train, dit Gaspard. Et Théodule va rentrer dans sa petite ferme. Et on ne parlera plus de rien. Je t'accompagne jusqu'à la vallée, dit Hélène. Elle apparaissait toute pareille à ce qu'elle était lorsque Gaspard l'avait vue à Lemainval. Ses yeux avait une flamme angélique. Tu viens avec nous, Théodule? Dit Gaspard. Je ne viens pas avec vous, répondit Théodule. Il expliqua que s'il rentrait à la ferme, il pourrait conter à son père qu'ils avaient fait cette expédition dans la cité du cinéma par simple curiosité et pour l'amusement. Il ajouterait que Gaspard avait pris le train. Et pour Hélène, que diras-tu? Demanda Gaspard. « Je ne dirai rien, puisqu'Hélène reviendra au château dans la soirée. Ils n'oseront pas lui faire de reproches. »« Je reviendrai dans la soirée, » dit Hélène. Ils s'avancèrent au milieu des bois qui, dans cette région, étaient assez clairsemés. Ils rencontrèrent bientôt un chemin. Ce n'était pas difficile de s'orienter sur cette crête d'où ils apercevaient la plaine de Chemy. Le chemin suivait la crête. Hélène et Gaspard quittèrent Théodule, qui monta vers le nord, tandis qu'eux-mêmes se dirigeaient vers le sud. Il leur suffisait de prendre à leur gauche le premier chemin pour aller vers la vallée entre les premières croupes. En dépit des événements spectaculaires qui venaient de se dérouler, ils étaient sûrs qu'aucune aventure n'était à prévoir. Gaspard et Hélène marchèrent sans hâte, échangeant de rares paroles. « Je te quitterai sur la grand-route, » disait Hélène. Au bout de 3 heures de marche dans des bas-fonds, ils gravirent une vaste croupe et ils arrivèrent sur une pente rapide. Ils aperçurent dans la perspective profonde du bois la route et le fleuve. Sous leurs pieds, c'était un grand pan rocheux, lisse et sombre comme un miroir sans teint. Entre les fentes du roc poussaient de rares bruyères. Ils durent faire un long détour pour le contourner. Quand ils furent au bas du rocher, ils le regardèrent longuement. La surface leur apparaissait noire et rose sous un éclatant ciel bleu. Hélène dit « Il me semble toujours que mon pays n'est pas loin d'ici et que je dois d'un moment à l'autre rencontrer maman Jenny. » Gaspard ne répondait pas. Ils allaient parvenir à un chemin qui dominait la route. Pourquoi s'attendre à rencontrer maman Jenny? Mais écoutez ce qui arriva. Ce matin-là, lorsque Nicolas et ses enfants avaient descendu les premières pentes vers la Meuse, ils s'étaient rendus compte que leur cheval peinait. Certes, il se tenait vaillamment au brancard et il n'aurait pas à fournir une longue traite. Mais le chemin qu'on suivait était abrupt et mal empierré. À tout instant, les sabots du cheval glissaient. On s'arrêta en un tournant assez large, où la déclivité était moins forte, et tandis que le cheval se reposait un peu, Nicolas alla explorer le chemin afin de savoir quelle distance restait à parcourir dans ces conditions difficiles. On ne pouvait pas songer à dételer le cheval et à faire descendre à bras la voiture. Jérôme et Ludovic n'auraient pas eu assez de force pour aider Nicolas dans cette besogne. Lorsque Nicolas revint, il leur apprit qu'à 300 mètres s'étendait une clairière autour de laquelle le chemin suivait une rampe plus aisée. On pouvait déjà entendre les trompes des péniches sur la Meuse. Ils repartirent en prenant les plus grandes précautions pour ménager le cheval. 100 pas furent franchis sans encombre, et déjà l'on apercevait la clairière lorsque le cheval glissa sur un rocher qui affleurait. Il s'abattit comme une masse. Il fallut dételer cette fois, et ce ne fut pas sans peine qu'on le dégagea et qu'on parvint à pousser la voiture entre 2 arbres où elle se trouva calée. C'était sûr que le cheval s'était brisé un membre. Il respirait avec peine. Il ne reste plus qu'à l'achever, dit Nicolas tristement. Jérôme et Ludovic embrassèrent le vieux cheval, tandis que Nicolas suivait le chemin pour gagner un village d'où il appellerait le vétérinaire. Il voulait avoir la certitude qu'il ne restait aucun espoir. Au bout d'une heure, le vétérinaire arriva dans son auto et constata que le cheval ne pouvait recevoir aucun soin et qu'il allait succomber. Nicolas repartit avec l'homme afin de trouver un équarisseur. Ses démarches prirent assez de temps. Nicolas dut encore téléphoner. Enfin, un camion arriva avec 2 ouvriers que Nicolas aida à charger la bête. Pendant ce pénible travail, Nicolas se félicita que Ludovic et Jérôme se fussent un peu éloignés. Il ne les avait pas aperçus comme ils venaient avec le camion, et il supposa qu'ils étaient entrés dans le bois. Lorsque la voiture se fut éloignée, il les appela, mais les garçons ne répondirent pas. Il ne fut nullement inquiet. Il se demandait comment acheter un autre cheval, et ce souci occupait toute sa pensée. Après 1 quart d'heure d'attente, il décida d'explorer un peu les environs. Pourquoi donc, en de telles circonstances, Ludovic et Jérôme avaient-ils eu l'idée d'aller se promener? Il était 2 heures de l'après-midi. Nicolas parcourut dans les bois un long cercle autour du break. De temps à autre, il lançait des appels qui restaient sans réponse. Une demi-heure plus tard, il entendit une galopade au fond des bois et il en fut bouleversé. Avant même de l'avoir vu, il songea au cheval pis. Il attendit de longues minutes sans bouger. Le silence s'était rétabli. Puis il entendit Jérôme et Ludovic qui l'appelaient et il les aperçut entre les branches d'un taillis. « Vite !» cria Ludovic, « il est à ta gauche !» Nicolas se retourna. Il vit le cheval pis qui s'avançait vers lui et s'arrêtait à 20 pas. Il s'approcha doucement. Le cheval l'attendit sans frémir. Nicolas fut étonné de pouvoir caresser l'encolure de l'animal ardent et capricieux. Jérôme et Ludovic survinrent. « Il est venu tout à l'heure près du chemin, » dit Jérôme. « Nous l'avons caressé, puis il nous a échappé. Il nous attendait, on caressait, et il s'échappait encore. »«
Va chercher une corde dans la voiture, » dit Nicolas. « On ne risque rien d'essayer. »
Le cheval paraissait heureux de sentir la main rude de Nicolas. Jérôme apporta une corde et Nicolas la passa sur la tête du cheval sans que celui-ci eût opposé la moindre résistance. Ils furent tout étonnés de pouvoir conduire le cheval jusqu'au break et de parvenir à le placer entre les brancards. Il se laissa atteler. Il refusa simplement de garder les œillères. Lorsque la besogne fut achevée, Nicolas dit
« Voilà une aubaine extraordinaire. J'ai souvent pensé à ce cheval. Nous tâcherons de retrouver son maître, mais en attendant, nous pouvons continuer notre route. »
Nicolas et ses garçons, encore ahuris de tous ces événements, descendirent cette fois la pente sans encombre. Ils arrivèrent à la clairière, et là, ils montèrent tous sur la voiture. Nicolas tenait les rênes. Le cheval Pie se montrait parfaitement docile. On arriva à un carrefour. Un chemin filait sur la droite, mais on ne devait pas changer de direction si l'on voulait gagner la Meuse.
« À mon avis, » dit Nicolas, « c'est un cheval qu'on a dressé pour toutes sortes de besognes et d'exercices. Il ne serait pas plus embarrassé de porter un cavalier que de traîner une voiture. L'essentiel, c'est de ne pas le brusquer, et je dois sans doute ressembler de quelque manière à un ancien maître qu'il a eu. Voilà pourquoi il m'obéit, malgré sa sauvagerie. »
Il achevait ses discours au moment où l'on arrivait à la croisée des chemins. Le cheval n'avait qu'à suivre. Cependant, il se détourna avec brusquerie et prit le chemin de droite. Nicolas tira vainement sur les rênes pour le faire reculer et le remettre dans la bonne direction. Le cheval s'obstina, piétina et parvint à parcourir une 50aine de mètres sur le nouveau chemin.
« Je vais descendre, » dit Nicolas.
« Attention !» cria Ludovic.
Profitant de ce que Nicolas avait un peu relâché les rênes, le cheval s'était élancé. D'abord, ce fut un trot rapide que Nicolas ne put d'aucune façon modérer, puis un train de cheval emballé, un vrai train d'enfer qui secoua la voiture avec une extrême violence. Par bonheur, le chemin restait désert. On ne rencontra que deux cyclistes qui eurent juste le temps de s'effacer contre le remblai. Ce chemin courait d'abord à flanc de montagne, puis il y eut des descentes et des remontées rapides dans les ravins. On se demandait comment la voiture ne versait pas.
« Attendons, » murmurait Nicolas, « il se calmera. »
Le cheval Pie semblait animé par un feu qui lui aurait brûlé les entrailles. Il fut bientôt couvert d'écume. À un croisement où la route descendait vers la vallée, le cheval la quitta pour prendre un chemin mal empierré qui se présentait à lui. Il dut alors modérer sa course, mais elle était encore bien trop vive pour permettre à Nicolas et à ses garçons de sauter de la voiture. D'ailleurs, il ne tenait guère à abandonner cette voiture qui contenait leurs instruments et tous leurs biens. Il se demandait combien de temps les essieux résisteraient à de tels sauts. Ils devaient se cramponner à leur banc de toutes leurs forces, à peine s'ils prenaient garde aux régions qui furent ainsi traversées. Bruyères, genêts, hautes futaies, taillis se succédaient. 2 heures passèrent ainsi. Le cheval prenait des chemins à tout hasard, montait sur les crêtes, redescendait dans les vallons obscurs.
« Il est fou !» murmurait Nicolas.
On arriva sur une corniche bordée d'ormes, entre lesquelles on distinguait la Meuse. Le chemin était à cet endroit si inégal que la voiture pencha. Le cheval ralentit son allure et revint au petit trot. Néanmoins, la voiture s'engagea si malencontreusement dans une ornière qu'elle versa. Nicolas et ses garçons furent précipités contre la bâche de la voiture. Le cheval s'était affaissé et il fut renversé presque complètement entre les brancards. Comme Jérôme, le premier, se dégageait du fouillis de la voiture, il s'écria
« Hélène et Gaspard !» « C'est Hélène qui vient avec Gaspard, là-bas, sur le chemin devant nous. »
Hélène et Gaspard accouraient. Lorsque Gaspard reconnut Nicolas et les garçons qui s'étaient avancés vers eux, il fut si étonné qu'il ne songea pas à les questionner.
« Hélène !» murmura Nicolas.
Ils restaient tous plantés sur ce chemin, ne sachant que dire.
« Pourquoi êtes-vous venu jusqu'ici ? » demanda enfin Gaspard.
Pourquoi ? Répéta Niklas. Il se tourna et tous regardèrent la voiture versée. Gaspard aperçut alors le cheval Pie qui était couché dans l'herbe entre les brancards. Il alla s'agenouiller près du cheval. Il jeta ses bras autour de son cou et plongea la tête dans sa crinière. « Mon beau cheval ! Comment est-ce possible ? Pourquoi t'ont-ils attelé ?» Le cheval secouait la tête. Il cherchait vainement à se relever. Hélène était venue près de Gaspard. Elle caressa la tête du cheval. Gaspard expliqua ensuite à son tour comment il se trouvait sur ce chemin en compagnie d'Hélène.
« Tu vois bien, lui dit Niklas, que les ours et les incendies ne mènent à rien de bon et qu'il est temps d'en finir avec ces plaisanteries. »
« Je ne demande pas mieux, répondit Gaspard. Nous pouvons vous aider à remettre la voiture d'aplomb. » Ils examinèrent la position de la voiture. Le haut du break était appuyé contre le talus. Les roues de droite étaient enfoncées dans une sorte de tranchée, tandis que celle de gauche se trouvait à 20 cm au-dessus du sol.
« Les essieux ne sont pas rompus, dit Niklas. Il nous faudrait simplement des cordes. »
« On peut couper des lianes de clématite, dit Gaspard. Il y en a en contrebas. » Sur la pente se creusait une vaste fondrière comblée par des halliers d'où s'élevaient des arbres minces et très hauts auxquels s'accrochaient de grosses lianes. On eut assez de mal pour couper et dégager ces lianes. Elles étaient pesantes et encombrantes. Ce ne fut pas sans difficulté qu'on les passa entre les rayons des roues autour des brancards et des montants de la voiture. La suite de l'affaire fut plus aisé. Dès que la voiture se trouva d'aplomb, le cheval eut un sursaut et la tira d'un seul élan sur le chemin.
« Attention qu'il ne se sauve pas !» dit Niklas.
Gaspard s'était jeté à la tête du cheval qui demeura tranquille. Ce fut alors seulement que Niklas conta la mort du vieux cheval et la rencontre du cheval Pie.
« Ma voix a dû lui plaire !» disait Niklas. Mais lorsque nous sommes montés dans la voiture, il ne m'a plus obéi, et il est parti à fond de train, dans n'importe quelle direction. Maintenant, je ne sais pas ce que nous devons faire.
Nous pourrions monter avec vous, dit Gaspard. Si nous sommes tous dans la voiture, il se fatiguera plus vite en tout cas, et dès qu'il sera maté, vous pourrez le guider comme vous voudrez.
Je crois que toi, Gaspard, tu as autre chose à faire et que tu dois retourner à Lominval, dit Niklas. Quant à Hélène Draper, il est bon qu'elle rejoigne les siens.
Gaspard et Hélène assurèrent Niklas qu'ils n'avaient nullement l'intention de vagabonder, mais qu'ils regagnaient, comme lui, la route de la Meuse. C'était une très belle fin d'après-midi. Les arbres devenaient purs dans l'air. Le ciel demeurait lumineux. Sa lumière semblait plus lointaine, mais ce n'était pas encore le crépuscule.
« Nous avons bien encore 2 heures avant la nuit, » dit Niklas.
« Au premier village, je téléphonerai pour faire venir un taxi, » dit Hélène. « Je déposerai Gaspard à Revin et je serai rentré chez Rosidor bien avant la nuit. » Tous montèrent dans la voiture. Le cheval Pie semblait fatigué. Il chemina lentement. Niklas avait laissé les rênes à Gaspard, qui guida le cheval, comme il voulut, au premier carrefour. On commit 2 erreurs. Une fois, on s'engagea sur une amorce de chemin, tombant à pic derrière un ressaut de roc. Il fallut reprendre une allée qui s'enfonçait très loin dans la forêt et finalement aboutissait à une vaste coupe entourée de taillis où il n'y avait aucune issue. Après avoir fait encore demi-tour, ce fut à tout hasard que l'on suivit une ancienne voie encombré de ronces, dont les talus, après un long cheminement, s'ouvrirent comme par surprise sur la route qui longe le fleuve. On avait perdu beaucoup de temps. Il faisait déjà sombre. Niklas voulut descendre d'abord vers le sud, bien que son intention fût de gagner la Belgique, car il se trouvait alors entre Fumet et Revin, et cette dernière ville était la plus proche, comme on le constata sur la première borne kilométrique. Niklas jugeait meilleur de conduire Hélène et Gaspard à Revin, où ils trouveraient l'un et l'autre le moyen de regagner plus facilement leur pays.
« Mon pays !» s'écria Hélène. « Dieu sait où il se trouve, mon vrai pays !»
Personne ne répondit. Il avait bien fallu renoncer à chercher le pays d'Hélène. À quoi bon en parler encore? Ce fut non sans tristesse que l'on parcourut les derniers kilomètres. Les arbres de la forêt défilaient lentement et la forêt paraissait maintenant hostile dans le crépuscule. On arriva aux premières maisons de Revin.
Poussons jusqu'à la gare, dit Niklas. Gaspard dormira dans la salle d'attente s'il n'y a plus de train. Hélène trouvera plus facilement un taxi de ce côté.
Allons, mon cheval, dit Gaspard.
Il secoua un peu les rênes de façon qu'elles claquent légèrement sur le dos du cheval. Jusqu'à ce moment-là, il s'était bien gardé de le stimuler. À peine eut-il fait ce geste machinal que la bête, comme piquée par un taux, frémit de tout son corps et s'élança dans un galop éperdu. Chacun se cramponna au banc ou au montant du break. La rue était à peu près déserte et le cheval ne rencontra aucun obstacle. On croisa seulement une automobile qui dut monter sur le trottoir pour éviter cet ouragan. Au bout de la rue, le cheval en suivit une autre où stationnait un camion. Le break frôla le camion.
C'est de ma faute, songeait Gaspard.
Fort heureusement, cette route aboutissait à la route qui s'éloignait vers la forêt où l'on ne tarda pas à pénétrer. La route suivait la pente douce d'une vallée transversale. Le cheval Pi avait toujours semblé fantastique à Gaspard, aussi bien qu'à Niklas et à ses fils. Cependant, la vivacité et l'allure joyeuse de la bête avaient une familière beauté qui inspirait confiance. Même lorsque Niklas et ses fils, au début de l'après-midi, avaient été emportés dans la voiture, ils étaient restés enclins à l'admiration et tout prêts à excuser les caprices du cheval. Cette nuit-là, ce fut bien autre chose. Ils avaient le cœur glacé par l'angoisse. Dans l'ombre, la robe du cheval luisait comme de la neige. La course allongeait démesurément le corps de la bête et secouait sa tête avec fureur. La nuit était tombée rapidement. On avait à peine parcouru un kilomètre dans les bois que les étoiles apparurent au-dessus des chênes et des feuillages qui se confondaient dans une masse énorme. De chaque côté de la route, le bois formait une barrière impénétrable. De temps à autre s'ouvrait une allée à peine distincte. Les sabots du cheval et le crissement des roues se répercutaient sur les pentes et, semblait-il, jusqu'au fond du ciel étoilé.
« Il se fatiguera, » disait Niklas.
On savait bien qu'il ne pensait pas ce qu'il disait et qu'il se demandait, aussi bien que les enfants, dans quelle région inconnue des hommes ce terrible cheval devait les conduire. Pas une maison sur la route, pas une voiture, rien que la forêt de chaque côté. De temps à autre, le cheval changeait d'allure et reprenait un taux modéré. Mais il était impossible d'en profiter pour sauter de la voiture, car soudain, il s'élançait de nouveau dans sa course folle. En vérité, on voulait aussi savoir où irait ce cheval. Un croissant de lune éclaira vaguement la route et le haut des arbres. Le paysage n'en parut que plus étrange.
Un renard qui traverse la route, murmurait Gaspard.
Le renard filait comme une ombre.
Un chevreuil qui nous regarde, murmurait Jérôme.
On apercevait des yeux dans l'ombre. Les têtes fines de chevreuil se dessinaient sous la lune dans les clairières.
Les oiseaux nocturnes fuyaient en silence au-dessus de la voiture. On découvrait tout un peuple de bêtes surprises. De gros papillons venaient heurter les fronts. Une bolette sauta devant le cheval. Un cerf se dressa et disparut comme un fantôme au milieu de la route.
Il semblait qu'on ne sortirait jamais de cette forêt. Les voyageurs avaient perdu conscience de toute durée. Ils se taisaient et regardaient de tous leurs yeux par-dessus les oreilles du cheval qui bondissait.
À un tournant, le cheval, au lieu de suivre la route, fonça droit dans la forêt. Ce fut comme un mur d'ombre. Tous s'attendaient à être jetés contre les arbres.
Niklas murmura une prière.
Ils passèrent à travers l'ombre et retrouvèrent la route.
Ils furent alors surpris de distinguer une vague lueur, comme une lueur d'aube, mais incomparablement plus lointaine.
La forêt s'ouvrait tout d'un coup. On arrivait sur un plateau.
Où se trouvait-il? Un ciel criblé d'étoiles sur des prairies et des landes.
Le cheval poursuivait son manège, tantôt prenant le trot, tantôt filant à toute allure.
Un vent froid soufflait sur le plateau, qui paraissait inhabité. Dans quel pays allait-on se réveiller?
Hélène serrait la main de Gaspard.
La monotonie des prés peu visibles avait remplacé les ténèbres de la forêt. Le paysage était encore plus interminable que tout à l'heure.
Le cheval quitta la route pour suivre sur la gauche un chemin secondaire.
Il revint sur la route par un autre chemin, mais au lieu de la suivre dans la direction première, il tourna et regagna le chemin dans lequel il s'était engagé.
Ainsi, cette course discordante prenait l'allure d'un rite insensé.
On parcourut 5 fois cette boucle autour de prairies noires où l'on ne distinguait rien. Le jour ne viendra donc jamais, murmurait Gaspard. Enfin, le cheval, en revenant pour la sixième fois sur la route, renonça à son manège et s'élança vers la droite. Tout d'un coup, on aperçut des lumières au fond des prairies. « Des maisons !» dit Gaspard. Bientôt, on entrait dans une petite ville par un passage entre de grandes maçonneries qui devaient être des fortifications. Aussitôt arrivé dans la première rue, le cheval avait freiné tout son élan et il s'était mis à cheminer avec une certaine lenteur. « On pourrait descendre, dit Jérôme, et aller prendre le cheval par la bride ?» Mais personne n'osait ni ne désirait sauter de la voiture. « Il faut voir !» murmurait Niklas. Que fallait-il voir ? Au bout de la rue, on distingua des lumières plus vives que celles du simple éclairage municipal. On entendit le flonflon d'une musique. Quel pays ! Murmura Ludovic. Une fête ! Dit Gaspard. On arriva sur une petite place circulaire où étaient dressées quelques boutiques, un bal, un manège. Il n'y avait pas une grande foule, quelques badauds seulement circulaient. Sans doute était-il tard et la fête allait se terminer. Quelle ville ! Reprenait Jérôme.
Peut-être Rocroi, dit Niklas.
Gaspard tira doucement sur les rênes, de façon que le cheval ne s'engage pas sur la place. Le cheval se détourna de lui-même et passa dans la direction opposée, derrière les boutiques. Il s'arrêta enfin, à côté de l'une d'elles, qui était une simple tente dressée le long d'une caravane peinte en gris. Sur le côté de la tente et sur la caravane étaient inscrits deux mots qui étonnèrent les garçons, aussi bien Hélène et Niklas. Deux mots en grandes lettres cursives d'un bleu sombre, « Maman génie ». Fin de la première face de la 9e cassette. Le pays où l'on n'arrive jamais, par André Dautel. Page 239.